France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
Le dernier théorème de Fermat, ce problème resté sans réponse pendant 3 siècles, est un peu la Joconde des mathématiques. Un projet collaboratif international cherche à l'enseigner à un ordinateur. Quels en sont les défis ? Été 1993, la découverte fait la une des journaux généralistes. Enfin, resté à l'état de conjecture pendant plus de 300 ans, le dernier théorème de Fermat est résolu par Andrew Wiles, jeune Britannique de 40 ans, avec une démonstration particulièrement complexe. Aujourd'hui, les assistants de preuves numériques ouvrent de nouvelles perspectives pour les mathématiciens. Si les ordinateurs sont encore loin de pouvoir démontrer de nouveaux théorèmes, comment peuvent-ils nourrir la recherche en mathématiques ? Dernier théorème de Fermat à l'épreuve de l'informatique. Ricardo Brasca, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence au département de mathématiques à l'université de Paris-Cité et au laboratoire Institut mathématique de Jussieu Paris-Rive-Gauche. Et en duplex depuis ici Nantes, bonjour à Assia Maboubi.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique à Nantes. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct, ici dans nos studios à France Culture.
Merci pour l'invitation.
Merci.
Merci beaucoup et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre feed podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors, quelle est l'importance de formaliser les démonstration numériquement. Et pourquoi prendre les résultats de Wiles et les mettre dans un ordinateur, c'est déjà en soi de la recherche en mathématiques. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, qu'est-ce donc que ce théorème et quelle est son importance ? La parole est donnée à Andrew Wiles, c'est notre archive du jour.
Au début du mois de septembre, j'étais assis ici, à ce bureau, quand soudain, de façon totalement inattendue, j'ai eu cette illumination incroyable. Ce fut le moment le plus important de toute ma vie professionnelle.
Pendant 7 ans, le professeur Andrew Wiles travailla dans un secret absolu, effectuant le calcul du siècle. Un calcul qui lui apporta gloire et regret.
C'est comme ça que tout a commencé. J'avais 10 ans, et un jour que je cherchais quelque chose à la bibliothèque municipale, je suis tombé sur un livre de maths dans lequel on expliquait l'histoire de ce problème. Quelqu'un l'avait résolu 300 ans auparavant, mais personne n'en avait jamais vu la preuve. Personne ne savait s'il y en avait une, et depuis, on la cherchait. Moi, un enfant de 10 ans, j'étais capable de comprendre un problème que par le passé, aucun grand mathématicien n'avait jamais pu résoudre. Et dès ce moment, j'ai essayé de trouver la solution moi-même. C'était un tel défi, un problème tellement magnifique. Il s'agissait du dernier théorème de Fermat.
Voilà, le dernier théorème de Fermat, un extrait du film de Simon Singh en 1996 et la voix d'Andrew Wiles, prix Abel en 2016 pour ses travaux. On l'entend déjà, Ricardo Brasca, cet extrait, on l'entend, hein, le calcul du siècle, l'illumination, il y a tout du mythe.
Bah oui, le théorème de Fermat, c'est sans aucun doute un des théorèmes les plus connus de l'histoire des mathématiques. Et la démonstration de Wiles est devenue aujourd'hui effectivement une démonstration mythique. C'est sûrement pas du tout la démonstration qu'il y avait Fermat, si Fermat avait une démonstration. C'est vraiment une démonstration des mathématiques du XXe siècle, c'est-à-dire elle est extrêmement complexe, elle mélange plusieurs secteurs des mathématiques, et c'est probablement une des démonstrations les plus complexes dans toute l'histoire des mathématiques.
Assia Maboubi, à votre réaction, vous aussi, à l'écoute des mots de ce mathématicien britannique ?
De l'entendre parler de cette illumination, en fait, qui fait écho en fait à son émerveillement d'enfant. J'imagine que pour beaucoup de chercheurs, en fait, il y a ce parcours-là d'un problème ou d'une théorie qui nous fascine, et avoir la chance de vivre d'une part une trajectoire de créativité aussi immense, et puis d'avoir clos le problème qu'on s'était posé, c'est vraiment très émouvant.
Avant de parler du théorème, peut-être on peut parler du personnage. Pierre de Fermat, savant du XVIIe siècle, il est magistrat, poète, latiniste et helléniste. Il s'est intéressé aux sciences, en particulier à la physique. On lui doit notamment le principe de Fermat en optique. Alors c'est pas un mathématicien de métier, Riccardo Bresca, mais ses résultats ont été une source de recherche très féconde pour ses successeurs.
Oui, oui, sans aucun doute. On dit souvent que c'est le meilleur mathématicien amateur de l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'était pas un mathématicien professionnel, mais il a des résultats très profonds, notamment en théorie des nombres, celui qui s'appelle les petits théorèmes de Fermat, que c'est bon, beaucoup plus simple que les derniers théorèmes, mais c'est quand même un théorème très important en théorie des nombres. Et il y a les principes de Fermat en physique, qui a quand même une grande importance en mathématiques aussi. Donc c'est effectivement un mathématicien de premier plan.
Assez à Boubi pour prolonger et continuer ce portrait.
Oui, c'est peut-être quand même quelque chose, un profil qui est plus répandu à son époque. Aujourd'hui, quand on est mathématicien professionnel, on est extrêmement spécialisé, souvent dans un secteur, comme a dit Riccardo, très très spécifique des mathématiques, alors que lui, il vit à une époque où en fait les mathématiciens sont aussi des contributeurs en d'autres sciences qu'on sépare un peu plus aujourd'hui.
Alors en mathématiques, on a parfois des énoncés très simples, dont on ne doute pas de leur véracité, mais ils peuvent être extrêmement difficiles à démontrer, et c'est le cas du théorème de Fermat, Riccardo Bresca.
Oui, effectivement, l'énoncé est très très simple, on peut l'expliquer au collège, même à l'école primaire. Bon, il dit en gros que si vous avez trois nombres entiers positifs, x, y, z, et vous prenez un exposant plus grand que 2, alors, un exposant n plus grand que 2, alors x puissance n plus y puissance n est différent de y puissance n. C'est un peu comme les triplets pythagoriciennes, mais à la place de l'exposant 2, on met un exposant plus grand que 2. Et le théorème, il dit qu'il n'y a pas de nombre entier qui satisfait cette égalité. Donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment expliquer au collège.
Alors pourquoi on dit, Assia Maboubi, il y a le petit théorème de Fermat et le dernier théorème de Fermat?
Alors déjà, il y en a plus que ça, des théorèmes de Fermat, je pense, mais le dernier, c'est parce que probablement, c'est le résultat de Fermat ou la conjecture de Fermat qui a été la dernière à avoir été prouvée au sens moderne du sens de prouver. Et le petit, parce que le petit, lui, on connaît une démonstration depuis bien plus longtemps. Donc Pierre de Fermat lui-même avait fait une démonstration de quelque chose qui ressemble à la formulation moderne de ce qu'on appelle aujourd'hui le petit théorème de Fermat, et on peut enseigner ça à des gens qui font ils ont 2 années d'études de maths après le bac, donc c'est quelque chose d'une envergure beaucoup moindre, même si l'importance est loin d'être négligeable.
C'est ça, Riccardo Bresca, c'est que Pierre de Fermat esquisse une preuve pour l'exposant en 4, mais la légende raconte que cet énoncé donc d'apparence banale, qu'il nota en marge d'un de ses livres, il l'aurait démontré, mais la marge était trop étroite pour contenir la merveilleuse démonstration qu'il avait.
Oui, d'après l'histoire, ça c'est ce que lui a écrit à la marge d'un livre des théories des nombres, des équations diophantiennes. Et bon, aujourd'hui, on soupçonne qu'en fait, il n'avait pas une vraie démonstration, il pensait peut-être d'avoir une démonstration, et après, il avait trouvé une erreur, et donc il avait laissé tomber. Bon, on ne peut pas être sûr, évidemment, mais ce qui est sûr, c'est que la démonstration qu'on a aujourd'hui n'est sûrement pas la démonstration que Fermat avait s'il avait une démonstration.
Pourquoi on soupçonne ça, justement?
Parce que celle d'aujourd'hui est vraiment une démonstration moderne qui utilise tous les mathématiques qui ont été développées après Fermat. Donc, c'est vraiment une démonstration du XXe siècle qui utilise des concepts extrêmement complexes qui ont été développés au cours du XXe siècle. Donc, c'est quelque chose que Fermat ne connaissait pas et ne pouvait pas avoir inventé juste pour cette démonstration.
Par la suite, avant d'arriver au XXe siècle, Assia Maboubi, on a des tentatives au XIXe dès cette époque.
Oui, oui, c'est une des choses qui fait l'épopée de ce théorème, c'est qu'il est resté tellement mystérieux que de nombreux mathématiciens, et pas des moindres, se sont intéressés à la preuve, ont proposé des solutions qui s'avéraient incomplètes. Il y a toute une histoire avant le point final écrit par Wiles. Et il y a déjà aussi l'utilisation de l'ordinateur dans cette histoire, parce que petit à petit, les gens se sont mis à utiliser des instruments de plus en plus sophistiqués pour essayer de se convaincre que cet énoncé était vrai pour des exemples de plus en plus nombreux.
Riccardo Bresca, quelles ont été ces tentatives?
Déjà, il y a les tentatives simplement d'essayer un peu au hasard pour voir si jamais on trouve un contre-exemple. C'est-à-dire si on trouve des nombres qui font pas marcher les théorèmes, ça on peut demander à l'ordinateur ou essayer à la main de tester. Et sinon, à la place d'essayer de démontrer les théorèmes pour n'importe quel exposant, on peut justement prendre un exposant à la fois. Par exemple, Pierre de Fermat lui-même traite les cas n égale 4. Et après, les cas suivants, c'est que c'est le n égale 3, qui, même si 3 est plus petit que 4, c'est un peu plus difficile. Ça a été fait par Euler, je crois, historiquement. Et après, bon, c'est très simple de remarquer qu'il suffit de démontrer les cas pour des exposants premiers. Donc, il reste n égale 5, 7, etc. Et on peut faire un exposant à la fois à la place de faire tous les exposants en même temps. Et dans la pratique, ça marchait. C'est-à-dire, on avait des démonstrations pour n égale 3, 5, 7, mais les démonstrations devenaient de plus en plus complexes. Et on ne trouvait pas une manière de trouver un argument qui marchait pour tous les exposants.
Au XXe siècle, en effet, on a Coomer, hein, qui est un mathématicien très important, Assia Mahboubi. Et on peut peut-être aussi rappeler ensemble, justement, quels ont été les apports de ce mathématicien prussien.
Alors là, je vais plutôt me tourner vers Ricardo, qui va être beaucoup plus expert que moi sur l'histoire Ricardo, de ces mathématiques-là.
Justement, Coomer, il voulait démontrer les théorèmes, les vrais théorèmes. Donc, il a essayé avec développer une nouvelle technique. Et à un moment, il s'est rendu compte que cette technique marchait seulement si l'exposant avait une certaine propriété, que lui, il a appelé être régulier. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est pas très important. Donc, il est arrivé à terminer la démonstration pour tous les nombres premiers dits réguliers. Et c'est la première fois où quelqu'un a trouvé un argument que même si l'argument ne marche pas pour tous les exposants, au moins marche pour une famille d'exposants. C'est-à-dire qu'on peut traiter au même temps, par exemple, 3, 5, 7, 11 sont tous des nombres premiers réguliers. Donc c'est la première fois où on a trouvé un argument qui marche pour beaucoup d'exposants en même temps. Pas tous, parce qu'il y en a qui ne sont pas réguliers, mais ça marche pour beaucoup d'exposants.
On a les raffinements théoriques du travail de Coomer, on a la puissance accrue des moyens de calcul sur ordinateur, on a pu donc prouver que le théorème de Fermat pour quelques centaines de milliers d'exposants, puis on a aussi de nouveaux espoirs qui naissent dans les années 80 avec l'intégration du théorème de Fermat dans plusieurs théories en plein développement, Assia Mahboubi.
Oui, donc ça c'est un peu ce qui fait l'intérêt quelque part de ce théorème, c'est-à-dire que au-delà en fait de l'intérêt du résultat en soi, qui a peut-être pas une portée aussi immense que le petit théorème de Fermat par ailleurs, l'intérêt majeur de ce résultat, c'est le champ de mathématiques qui a été développé pour arriver à montrer ce théorème. Et là pour le coup, on voit qu'il se retrouve à la croisée d'avancées majeures en théorie des nombres. Et c'est ça, en fait, aussi qui fait la légende de cette démonstration.
Alors, quel est ce champ mathématique développé, justement, pour se frotter à ce théorème, Ricardo Brasca?
C'est une grosse partie de ce qu'on appelle aujourd'hui théorie algébrique des nombres. Et notamment, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les programmes de Langlands. C'est-à-dire que dans les années 50, entre les années 50 et 60, trois mathématiciens ont formulé une grosse conjecture qui liait deux mondes des mathématiques qui apparemment n'avaient rien à voir l'un avec l'autre, la conjecture de Taniyama, Shimura et Weil. Et quelques années plus tard, donc cette conjecture était immédiatement apparue comme une conjecture très importante, qui par contre n'était pas du tout liée au théorème de Fermat au début. Mais quelques années plus tard, les mathématiciens ont remarqué que la conjecture impliquait les théorèmes de Fermat. Donc, un nouveau chemin pour démontrer les théorèmes de Fermat.
Alors, comment Andrew Wiles est-il parvenu à la démonstration de ce théorème? Quelles seront les répercussions de cette démonstration? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Direct sur France Culture avec Ricardo Brasca et Assia Mahboubi, nous parlons du dernier théorème de Fermat, de l'épopée de ce théorème mythique dans l'histoire des mathématiques. On vous résume le problème avec cette pépite qui est extraite d'une fiction audio de 1957.
Vous savez bien que l'on peut parfois partager un carré parfait en une somme de deux carrés parfaits. Par exemple, 25, qui est le carré de 5, est égal à la somme de 16, qui est le carré de 4. Et de 9, qui est le carré de 3.
Oui.
Ou encore, 100, qui est le carré de 10, peut être décomposé en 64, qui est le carré de 8, et 36, qui est le carré de 6.
C'est ça, oui.
Malheureusement, ce qui est possible pour les carrés, c'est-à-dire les deuxièmes puissances, cesse de l'être pour les puissances supérieures. Autrement dit, il est impossible, dit Fermat, de partager un cube en deux cubes, une quatrième puissance en deux quatrièmes puissances, En général, une puissance de degré supérieure en deux puissances du même degré.
Oh ça, monsieur, ça c'est trop fort pour moi.
C'est trop fort, mon petit, pour l'universalité actuelle des hommes de science. Fermat, lui, assure qu'il en avait découvert une démonstration admirable. Malheureusement.
Malheureusement.
Et comme pour les autres, il s'était contenté d'en griffonner le résultat dans une marge trop petite pour la contenir.
Et on lui fait confiance là-dessus.
Mais probable qu'on peut.
Je vous l'ai dit, on n'a presque jamais pris Fermat en délit d'erreur.
Bon, alors.
Alors, ce théorème, énoncé en 1637, il y a 3 siècles, nul depuis ce temps n'a pu le prouver, ni le démontrer inexact. Les plus illustres mathématiciens, d'innombrables amateurs, l'arithmétique est la seule branche des mathématiques où les amateurs aient encore leur chance, et encore, se sont en vain mis à la torture. Il y a bien eu la célèbre théorie des idéaux de Kummer et celle de Dedekind. Ainsi, la solution de Fermat est restée dans l'Empyré.
Ce n'est pas possible.
Depuis 300
ans.
Oh, non, mais c'est fou.
Vous parlez d'un type.
Voilà un extrait de l'émission Les grandes figures de la science française. C'était en 1957, donc sur la RDF. Depuis, voilà, 300 ans plus tard, nous avons donc Andrew Wiles, ce mathématicien britannique qui parvient à cette démonstration en 1993, enfin plus exactement 1994. Ricardo Brasca, il s'agit là d'un spécialiste de la théorie des nombres.
Andrew Wiles, oui, il était déjà un mathématicien très connu, donc il était professeur à Cambridge, à Princeton, je pense, à l'époque. Donc il était déjà un mathématicien très, 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 très connu, un expert des théories des nombres, qui travaillait dans ces domaines depuis sa thèse. Et la chose intéressante, c'est que personne ne savait qu'il travaillait sur la conjecture de Taniyama Shimura-Weil, qui à l'époque, c'était une des conjectures les plus importantes en théorie des nombres, mais on pensait que c'était encore, disons, c'était impossible à résoudre, elle était trop dure. Et donc, je pense que les gens n'essayaient vraiment même pas. Et lui, il s'est enfermé, il a travaillé tout seul pendant 6 ans pour essayer de démontrer cette conjecture et est arrivé à démontrer, disons, 98% de la conjecture, notamment la partie qui était suffisante pour démontrer les théorèmes de Fermat.
C'est que cette démonstration du théorème de Fermat, elle donne les grandes lignes donc de la démonstration de la conjecture de Shimura-Taniyama-Yell. Cette histoire de conjecture de Shimura-Taniyama-Yell, ça c'est quelque chose de vraiment important à Yamabubi. On l'appelle aussi le théorème de modularité qui a été formulé dans les années 60.
Oui, là encore, vous êtes plutôt tombé sur des questions
qui concernent
Ricardo est vraiment
problème.
L'expert entre nous deux. par contre, le commentaire que je pourrais faire, c'est que, enfin, sans vouloir du tout écorner l'aura que mérite Wiles, en fait, on voit là que c'est vraiment une épopée. En fait, il n'y a pas que lui dans le paysage. Il vient couronner en fait tout un ensemble de travaux en théorie algébrique des nombres qui dont l'ampleur dépasse juste la contribution pour ce théorème.
Pour revenir en tout cas sur ce théorème de modularité, Ricardo Brasca, qui est donc formulé dans les années 60, si vous pourrez, je ne sais pas, résumer ça, quel serait l'énoncé?
Alors, l'énoncé, je peux le dire, c'est très simple, c'est toute courbe modulaire rationnelle est modulaire. Toute courbe elliptique, pardon, rationnelle est modulaire. Bon, dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, les courbes elliptiques sont des courbes planes, ne sont pas des ellipses, même si les nombres ressemblent un petit peu. Et donc, c'est un domaine qui concerne la théorie des nombres où on regarde des équations en deux variables, on trace des courbes sur les plans un peu comme on fait au lycée. Et après, il y a un autre domaine des mathématiques, celui des formes modulaires, dont la définition est beaucoup plus complexe, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais la chose intéressante, c'est que quand on regarde la définition d'une forme modulaire et la définition d'une courbe elliptique, c'est deux choses qu'on a l'impression qu'ils n'ont rien à voir l'une avec l'autre. On s'est dit, bon, il s'agit de deux concepts mathématiques qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, sont très loin. Donc, bon, pourquoi pas? Les courbes elliptiques vont intéresser certains mathématiciens, les formes modulaires, d'autres mathématiciens. Et la conjecture dit que toute courbe elliptique provient, dans un sens très précis, d'une forme modulaire. Donc, la conjecture dit qu'il y a un pont entre ces deux mondes mathématiques qui apparemment sont très loin. Mais en fait, c'est deux aspects du même objet mathématique. Et les mathématiciens adorent trouver des ponts comme ça, parce que c'est quelque chose de totalement inattendu. Et quand même déjà formuler la conjecture, c'est super intéressant parce que c'est pas du tout évident de se rendre compte que ces ponts peuvent exister parce qu'il n'y a pas de raison apparemment. Et donc, quand la conjecture a été formulée, elle a immédiatement apparu comme une conjecture extrêmement profonde et très importante.
Oui, c'est ça, c'est que ces relations entre différents champs mathématiques, ça suscite aussi de nombreux travaux spécialisés depuis Asia Mabubi.
Oui, en fait, c'est vraiment assez archétypique des grandes avancées des mathématiques que d'avoir, comme Ricardo l'a mentionné, en fait, quelqu'un qui observe, parfois par accident, parfois parce qu'il y a une rencontre en fait entre deux personnalités, des ponts comme ça entre différents domaines. Donc ça va arriver en logique, en théorie des nombres, en géométrie, et là c'est un exemple magnifique.
Alors pour bien comprendre ce tour de force, en effet, en été 93, la découverte fait donc la une. Elle est titrée à peu près partout, 3 siècles et demi de résistance. Enfin, c'est vraiment un événement. Et puis, coup de tonnerre, janvier 94, on annonce l'invalidation de sa démonstration, Ricardo Brasca.
Oui, alors, Weiss soumet sa démonstration à un journal, bon, un des plus prestigieux au monde. Qui est donc concrètement, quand on soumet notre démonstration, il y a d'autres mathématiciens qui commencent à regarder la démonstration pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et bon, c'est normal de trouver des petites erreurs, des typos, etc. Ça arrive tout le temps. Donc bon, il y a un mathématicien qui trouve une petite erreur, donc il commence à discuter avec Weiss. Au début, ça a l'air d'être un des nombreux erreurs qu'on trouve dans des articles tout le temps. Mais bon, il y a quelque chose, les rapporteurs n'est pas convaincu, donc ils discutent, je pense qu'ils s'appellent au téléphone, et à un moment, ils se rendent compte qu'il y a vraiment quelque chose, c'est-à-dire il y a un argument qui n'est pas complet. Et donc, bon, finalement, il y a une erreur dans la preuve, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que la preuve est fausse, mais qu'il y a un argument qui n'est pas complet, donc qu'on ne peut pas être sûr que c'est vrai. Et donc, la démonstration, bon, d'un coup, ça devient incomplète, et donc le théorème de Fermat n'est pas encore démontré.
Voilà, il faudra attendre octobre 94, après de longs mois, pour que Andrew Wiles et son étudiant, le mathématicien Richard Taylor, valident enfin sa démonstration.
Oui, là, l'histoire est assez intéressante parce que Wiles ne veut pas au début rendre publique sa démonstration parce qu'il est, je pense, préoccupé que quelqu'un, en lisant la démonstration, est sûrement super intéressant, même avec l'erreur, mais lui, il a peur que quelqu'un, en regardant la démonstration, il soit capable de corriger l'erreur très, très vite. Et donc, finalement, c'est cette personne qui peut dire « c'est moi que j'ai terminé la preuve ». Donc, il s'est donné quelques mois pour dire « je vais essayer, moi, de la corriger en collaboration avec Taylor ».
Assia Mabouby, pour reprendre les mots de Jean-Marc Fontaine, je le cite, un mathématicien français, « le théorème de Wiles n'est pas seulement la fin d'une grande histoire, il change la manière de voir quelques-uns des grands problèmes qui intéressent actuellement les arithméticiens et augmente le champ des possibles. » Avec vos mots à vous, quelles sont justement les répercussions de cette démonstration ?
Je pense que je vais pas arriver à en donner un acompte compréhensible d'un grand public, mais je pense que en fait on peut dire que ça a créé en fait des domaines mathématiques. C'est pas quelque chose d'anodin. En fait, le fait que on ait réussi à démontrer cette conjecture, en fait, au-delà de la répercussion sur le grand théorème de Fermat, ça a irrigué en fait tout un champ de nouvelles questions. Qui sont organisés dans un programme de recherche en fait et qui continuent en fait à occuper la communauté de théorie algébrique des nombres et qui va l'occuper je pense encore pendant un certain temps. Voilà.
Ricardo Huasca.
Oui, sans aucun doute en fait, c'est les théorèmes de Fermat, c'est les premiers cas de ce qu'on appelle aujourd'hui les programmes de Langlands, que c'est l'effet qu'il y a ces deux mondes qui ont l'air totalement séparés mais qu'en réalité ils sont deux aspects du même objet mathématique.
Ces fameux ponts que les mathématiciens
exactement.
Aiment bien faire.
Donc là c'était fait pour les courbes elliptiques et les formes modulaires et aujourd'hui on cherche de faire la même chose pour des objets encore plus compliqués qui par contre apparemment sont très très loin mais on s'aperçoit de plus en plus qu'en fait sont très proches.
Et alors précisément, c'est cette multiplicité des outils utilisés qui explique la complexité de cette démonstration, Ricardo Brasca.
Oui, la démonstration de Weiss est gigantesque et lui, il utilise des résultats qui vont bien sûr qui viennent de la théorie des nombres, mais aussi de la géométrie algébrique, mais aussi de l'analyse. C'est-à-dire, il utilise des résultats d'analyse très difficiles. Et donc, ils sont normalement très très loin de la théorie des nombres. Mais ça, c'est naturel parce que les formes modulaires sont des objets très analytiques. Donc, il est obligé d'aller loin de la théorie des nombres parce que son théorème, en fait, concerne des objets qui sont apparemment loin de la théorie des nombres.
Assia Mabouby, c'est aussi pour ça que cette démonstration est une horreur à formaliser.
J'aurais pas utilisé ces mots-là. J'aurais dit au contraire
je dis avec humour et de la tendresse.
Un très beau programme. Et que c'est ce qui en fait l'intérêt, en fait. L'intérêt, c'est vraiment d'arriver à rendre compte de cette multiplicité de points de vue sur les mêmes objets, en fait. Et d'arriver à formaliser, au sens rendre absolument précis, comment est-ce qu'on arrive comme ça, quand on est un esprit de mathématicien professionnel entraîné, à comme ça passer d'un point de vue à un autre sur un même objet mathématique, avec ce qui va entraîner l'utilisation d'un vocabulaire différent, d'un ensemble d'outils pour étudier les objets différents. Et on arrive comme ça, quand on est quelqu'un comme Ricardo, à passer avec aisance d'un point de vue à un autre, alors que la machine va devoir se faire expliquer tous les détails de ces ponts.
Ricardo Bresca.
Oui, non, mais je suis d'accord avec Cassia. La démonstration est extrêmement complexe. Et moi aussi, moi non plus, j'ai utilisé les mots erreur à formaliser, mais ça va être sûrement un sacre boulot. Il y a beaucoup de choses à formaliser parce que la démonstration utilise énormément des maths. Il utilise des maths de droite à gauche, de l'analyse, de la théorie des nombres, etc. Et c'est vraiment une démonstration extrêmement complexe.
Voilà, un sacré boulot, une démonstration connue pour sa complexité. Il faut donc en effet avoir une thèse en théorie des nombres pour la comprendre. Alors, comment l'informatique poursuit-elle cette épopée? Quelle est l'importance de la formalisation informatique des démonstrations mathématiques? Quelles sont ses difficultés? Restez avec nous, on y vient. Chapelier fou, la guerre des nombres, car nous parlons de ces mathématiciens sur le front de guerre pour formaliser numériquement le dernier théorème de Fermat. On en parle avec nos deux invités du jour, Ricardo Bresca, maître de conférence au département de mathématiques à l'Université de Paris Cité et Laboratoire et au Laboratoire Institut Mathématique de Jussieu Paris Rive Gauche, et Assia Maboubi, directrice de recherche à l'INRIA à Nantes. Nous venons de parler de l'histoire de cette énigme mathématique, ni prouvée, ni invalidée, restée sans démonstration pendant 300 ans, jusqu'en 1994. Aujourd'hui, il est question de la formaliser numériquement, de l'apprendre, entre guillemets, aux ordinateurs. C'est là qu'entrent en jeu l'assistance numérique et les assistants de preuve. Ricardo Bresca, quels sont ces outils informatiques?
Alors, un assistant de preuve est essentiellement un langage de programmation, donc qui peut être utilisé comme langage de programmation pour écrire des logiciels, comme les logiciels qu'on a dans notre téléphone, mais il peut aussi être utilisé pour... on peut formuler des maths à l'intérieur du langage de programmation. C'est-à-dire que le langage de programmation est suffisamment puissant qu'on peut écrire des maths et exprimer des concepts mathématiques à l'intérieur du langage de programmation dans une forme extrêmement précise. Et les langages de programmation, l'ordinateur, dans un certain sens, comprend les maths, ou plus précisément, il est capable de nous dire si ce qu'on a écrit est correct.
Alors ces assistants de preuve, faut pas les confondre, Asiam Aboubi, avec les outils de démonstration automatique.
Non, c'est vraiment deux. Il faut voir les choses. C'est deux familles d'outils comme des familles vraiment différentes. Quand on parle d'assistant de preuve, on parle d'un langage formel, comme l'a dit Ricardo, qui permet de donner un sens très précis aux définitions, aux énoncés et aux preuves candidates que les humains écrivent. C'est-à-dire que les humains sont censés décrire une preuve qu'ils sont censés connaître, et la machine va automatiquement vérifier que la preuve candidate est ou pas une preuve correcte pour l'énoncé qu'on veut promouvoir au statut de théorème. Alors que la preuve automatique, c'est un pan différent qui consiste à essayer de donner un problème à un ordinateur, une formule, un problème mathématique, et on attend de l'ordinateur qu'il le démontre, qu'il produise lui-même la preuve.
Voilà, les outils de démonstration automatique donc cherchent les démonstrations, les assistants de preuve permettent la vérification de preuves mathématiques. Ça, Ricardo Brasca, ce sont des outils, les assistants de preuve, qui existent depuis la fin des années 1960 à peu près, mais ça fait peu de temps que les mathématiciens s'en emparent.
Alors, disons, oui, effectivement, c'est rien de nouveau. Les assistants de preuve existent depuis les années 70, je crois. Mais, disons, c'était quelque chose qui intéressait plutôt les informaticiens. Bon, il y avait des mathématiciens qui étaient intéressés, mais jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, la plupart des personnes qui travaillaient avec les assistants de preuve, c'était des personnes intéressées à des questions soit liées à l'informatique, soit liées aux fondations des mathématiques, genre les axiomes, etc. Et depuis quelques années, et les mathématiciens, disons, il y a de plus en plus de mathématiciens qui travaillent dans des départements de maths qui s'intéressent aux assistants d'épreuve.
Alors pourquoi, en tout cas, pourquoi les mathématiciens s'intéressent assez peu, enfin depuis peu, à ce type de logiciel, Asiam Aboubi?
Alors, pour être plus précis, en fait, les pionniers dans la conception de ces outils, ce sont des mathématiciens. En fait, les deux premiers, disons, ancêtres de ces familles d'outils qu'on appelle les assistants de preuve, sont vraiment écrits par des mathématiciens, l'un néerlandais et l'autre polonais. Et ensuite, enfin, eux, ils avaient vraiment en tête que ça allait devenir des outils pour faire des mathématiques de façon moderne et se faire assister dans la créativité, dans les processus même créatifs des mathématiques. Et puis, effectivement, en fait, les gens qui se sont emparés de ces outils en premier n'étaient pas le public visé par les premiers auteurs. Et ce sont des gens qui s'intéressent à démontrer des théorèmes très particuliers, qui sont les théorèmes qui décrivent les propriétés d'un programme. Pour dire, par exemple, que un métro sans conducteur s'arrête bien quand on lui demande, ouvre les portes quand on lui demande, les ferme, etc. Et ça, ce sont aussi des théorèmes, en fait, qui décrivent ces propriétés. Et par contre, là, les théorèmes et les démonstrations sont trop techniques et routinières pour qu'un humain les vérifie par lui-même. Et donc, on fait confiance à une machine plutôt qu'à un humain pour les vérifier.
Alors, depuis plusieurs années déjà, on veut perfectionner la preuve du théorème de Fermat, rendre le résultat plus sûr. Est-ce que ça signifie, ça, Ricardo Brasca, qu'on a encore des incertitudes, qu'il y a encore des risques d'erreur dans tout ça?
Non, pas vraiment. Disons, on peut jamais être sûr au 100%, mais je pense pas qu'il y a quelqu'un qui doute sérieusement de l'exactitude de la preuve du théorème de Fermat. Ça a été vérifié par énormément de gens. Aujourd'hui, bon, il faut avoir, comme vous avez dit, une thèse en théorie des nombres, mais il y a beaucoup d'étudiants qui ont un doctorat en théorie des nombres qui ont regardé la preuve à droite, à gauche. Donc, ça serait très, très étonnant si aujourd'hui on trouve une erreur. Donc, pour moi, l'intérêt de cette de la formalisation de la preuve n'est pas vraiment de vérifier l'exactitude de la preuve. Ça, on est essentiellement déjà sûr que on est sûr que la preuve est correcte.
Parce que voilà, on a ce projet collaboratif en open source, un projet d'envergure qui est financé à hauteur d'environ 1,1 million d'euros entre 2024 et 2029, qui a pour objectif de faire comprendre donc la preuve du théorème de Fermat par un ordinateur. C'est coordonné par Kevin Buzard, mathématicien à l'Imperial College de Londres. Et vous faites partie également de ce projet, Ricardo Brasca.
Oui, je collabore avec Buzard régulièrement, donc je participe à ce projet de formalisation. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment encore participé directement au projet, mais je participe plutôt à l'amélioration de la bibliothèque mathématique que Buzard a besoin pour son projet. Mais bon, je l'ai fait en collaboration avec lui, donc on discute régulièrement de ce qu'il a besoin, etc.
Asiam Aboubi, vous ne participez pas directement à ce projet. Vous avez participé en l'occurrence à formaliser des théorèmes. Quelles sont l'utilité de ce type de projet?
En effet, moi j'ai participé il y a quelques années à un projet qui consistait à montrer un autre théorème un petit peu connu, même s'il est moins connu du grand public, qui s'appelle le théorème de l'ordre impair, en théorie des groupes finis, donc un autre secteur des mathématiques. Et là encore, il y avait un peu les mêmes problématiques de rencontre de différents pans de mathématiques pour arriver à faire la preuve, une preuve très longue qui tient deux volumes de journaux, qui a tenu en haleine les gens pendant longtemps. Enfin, une histoire un peu similaire, en peut-être un peu plus petit quand même. Et je pense que dans les deux cas, l'intérêt principal de ce type de travaux, là aussi collaboratifs, internationaux, etc., c'est pas tellement, et comme pour le pendant sur papier, c'est pas tellement la fin de l'histoire qui est intéressante, c'est le chemin. C'est comment est-ce qu'on va faire pour réaliser en fait ce corpus formalisé de mathématiques. Donc comment on va arriver à faire comprendre à la machine, comme on l'a dit, tous ces différents points de vue sur les mêmes objets. Et le bénéfice est double. Le premier, c'est que probablement, je pense sincèrement, qu'on améliore les mathématiques quand on les formalise. On comprend plus de choses, on a plus d'instruments pour les observer, découvrir des abstractions, reconnaître des motifs communs qu'on n'avait pas vus sur papier parce que la masse de papier est trop importante. Et puis aussi, en fait, on a une description de la preuve qui est beaucoup plus agréable à regarder, parce qu'on peut la regarder avec différents niveaux de détail, ce qui est très difficile à faire avec des livres.
Vous voulez dire que quand la chose la plus importante, c'est le chemin, Assia Mahboubi, ça va aussi permettre de découvrir des choses en maths?
Convaincu. En fait, on réfléchit en fait à ces mathématiques avec un point de vue différent et avec une façon différente de l'exprimer. Et lorsqu'on change de langue, on change de façon de penser. Ça, c'est quelque chose qui marche en langue naturelle et aussi en mathématiques. Et par ailleurs, en fait, le fait d'avoir un assistant de prof, c'est pas uniquement pour se faire taper sur les doigts quand on fait une erreur. C'est aussi que, ben, comme en informatique, pour faire les choses bien et pour qu'elles passent à l'échelle, ben, il faut réfléchir vraiment aux bonnes abstractions et aux motifs communs qui traversent en fait des choses qui sont a priori décrites de façon différente sur papier. Et ça fait en fait découvrir des simplifications, des abstractions, qui sont en fait des choses qui relèvent vraiment de l'activité du mathématicien professionnel. Mais là, on a un instrument qui est l'ordinateur qui nous aide à faire ça.
Ricardo Brasca, vous êtes d'accord avec ça? Le fait que traduire les mathématiques pour une machine, c'est un exercice mental particulier.
Oui, je suis absolument d'accord. En fait, de mon avis, et la raison la plus importante pour formaliser des maths, c'est pas de vérifier l'exactitude, ce qui est très bien, mais c'est pas la raison la plus importante. La chose la plus importante, c'est que au cours du processus de formalisation, on est obligé de repenser notre démonstration, et très souvent, à la fin, quand on l'a formalisé, on se rend compte qu'on l'a mieux écrit. Peut-être, juste comme dit Assia, on a trouvé des abstractions meilleures et on a généralisé ou simplifié les preuves. Et à la fin, on a vraiment compris quelque chose des mathématiques. Et ça, c'est un gain mathématique qu'on ne fait pas exactement à cause de l'ordinateur, mais l'ordinateur nous force, nous incite tellement à faire ça qu'à la fin, on a gagné des choses mathématiques.
Alors, quel est justement le projet collaboratif de formalisation de la preuve du théorème de Fermat et quels sont ses outils ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Direct sur France Culture avec Assia Mahboubi et Ricardo Brasca. Nous parlons du théorème de Fermat et des nouveaux outils informatiques pour formaliser cette démonstration. Ce grand défi collaboratif de faire apprendre à un ordinateur cette démonstration requiert une mobilisation dans l'instruction de l'intégralité des étapes du raisonnement, mais aussi d'agréger et de structurer ces avancées d'ici 2029. Pour le reportage du jour, nous sommes allés au laboratoire des mathématiques de l'université Paris-Saclay pour découvrir cet outil. Et c'est avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour Natacha, oui, cet outil Lean Blueprint a été développé afin de coordonner et planifier le travail de formalisation tout au long du projet. Son concepteur, le professeur Patrick Massot, camarade de Kevin Buzzard, m'a décrit cet espace ouvert à tous, une sorte de tableau de bord où chaque participant peut raffiner et actualiser chacune des étapes. On peut ainsi observer de manière panoramique segments de code, lemmes et graphes qui s'esquissent au gré des avancées de la démonstration de Fermat. Alors si lui-même ne participe pas encore à l'effort collectif, sa contribution permet de fédérer toute une armée de contributeurs et d'attiser l'émulation collective face au challenge.
« Lean Blueprint, c'est un outil dont on avait ressenti la nécessité lors d'un travail précédent avec Kevin Buzzard, qui maintenant mène cet effort de formalisation du dernier théorème de Fermat, et aussi Johan Comelin. On avait, en 2018-2019, expliqué aux ordinateurs la définition des espaces perfectoïdes de Peter Schulze. Et dans cet effort, on n'était que trois à contribuer, et on avait un petit peu de mal à bien se coordonner alors qu'on n'était que trois. Et donc je m'étais dit, suite à cette première tentative, que ce serait bien d'avoir un document permettant d'organiser le travail et de bien voir comment se répartir les choses à faire avec cet outil dit de blueprint. Et depuis, il a été utilisé par de nombreux projets de formalisation. Donc ça, c'est le blueprint du dernier théorème de Fermat. Donc ça se présente comme une page web qui est publique. N'importe qui peut aller voir ça en cherchant dans un moteur de recherche. Et on voit qu'il y a un texte. Bon, là, on voit une table des matières, mais si on clique sur un nom de chapitre, on voit qu'il y a ici un aperçu du plan de la démonstration. Et il y a un certain nombre d'énoncés, avec ici des lemmes, des définitions. Un lemme, c'est un mot pour dire petit théorème préparatoire. Et donc, on va dire des théorèmes, pour simplifier. Et chacun de ces théorèmes a un énoncé qui est écrit en langage courant, hein, pas en langage formalisé du logiciel Lean, et avec la démonstration qui est aussi écrite comme on l'écrirait sur papier. Et puis il y a des petites encoches, là on voit à côté de lemme 2.1, par exemple il y a un petit tic disant c'est bon, quoi, une petite coche pour dire ok, et ça veut dire que cet énoncé a été expliqué à l'ordinateur, que l'ordinateur est content de cet énoncé et qu'on peut s'en servir.
Il n'y a pas d'erreur, donc il l'a vérifié.
Il n'y a pas d'erreur, et surtout l'énoncé est précis, la démonstration est précise, et tout a été validé par l'ordinateur.
Une petite précision, donc Lean c'est vraiment un assistant de preuve,
ouais.
Là on est sur Lean Blueprint, et donc ça permet de structurer tout l'avancement du projet.
L'idée, c'est de commencer par écrire un texte traditionnel, avec plus de détails qu'on mettrait traditionnellement, parce que globalement, pour toutes ces histoires d'explication à l'ordinateur, il faut fournir plus de détails. C'est un des intérêts du projet, hein, de se forcer à fournir plus de détails pour rendre la démonstration plus accessible à des gens qui sont moins spécialisés. Donc on se force à écrire des détails, et ensuite on produit ce texte, et l'outil le transforme en page web, avec ces petites coches pour dire que c'est validé ou pas. Et puis l'outil donc fabrique aussi ces fameux graphes que les gens associent beaucoup à cet outil. Par exemple, on clique dans la table des matières sur « graphe de dépendance du chapitre 3 », et on voit un graphe, donc ça veut dire quoi concrètement? Il y a ça se présente comme un dessin en deux dimensions, avec des petits ovales, avec des mots écrits dedans.
Un peu comme une arborescence.
Et ça fait comme un arbre, on peut dire ça, ça fait un arbre avec des feuilles, des embranchements et puis des branches. Et ces feuilles ou ces embranchements ont des couleurs, il y a un code couleur qui est expliqué quand on clique sur la légende, et on voit qu'il y a des choses qui sont verts, ça veut dire que c'est des choses qui ont été validées, qui ont été expliquées complètement à l'ordinateur. Il y a des choses qui sont bleues, ça veut dire qu'elles sont prêtes à être à faire l'objet d'un travail. Donc ça veut dire que tout ce qui est nécessaire pour commencer à travailler sur cette chose-là est prête. Ou alors après, il y a des subtilités selon que c'est seulement l'énoncé d'un théorème qui est prêt, ou bien la démonstration aussi. Donc il y a tout un... C'est pour ça qu'il y a du bleu clair, du bleu foncé, du orange,
les
différentes teintes, selon que l'avancement du projet. Donc n'importe qui est intéressé par le projet peut regarder ces graphes, ces arbres qui apparaissent à l'écran, et voir que, par exemple, là, ici, j'ai une boîte bleue avec marqué courbe elliptique, bonne réduction. On voit que c'est bleu, donc c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. On peut cliquer dessus et on voit le texte mathématique, donc c'est une définition. Donc on voit que cette définition est prête à être expliquée à l'ordinateur. Et donc ça permet de voir l'avancement des travaux et de coordonner les gens.
Pour la communauté.
Voilà, et de permettre d'avoir plus de contributeurs, parce que c'est plus clair où on en est, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors que si on avait juste d'un côté un texte mathématique traditionnel et puis de l'autre la version écrite expliquée à l'ordinateur, c'est pas si facile que ça de faire la correspondance entre les deux. Donc là, le but de cet outil, c'est vraiment de planifier le travail de formalisation, donc le travail d'explication à l'ordinateur, et de le planifier initialement et tout au long du projet. C'est-à-dire que tout au long du projet, ce document est raffiné, et en rajoutant des détails ou en changeant un peu le chemin quand on s'est rendu compte qu'il y a une difficulté, et est mis à jour voilà, sur le site web en temps réel. On voit où en est la formalisation, et ça permet de se coordonner et d'avancer. Et ça motive les gens aussi de voir ces graphes verdir au fur et à mesure, donc ce que les nœuds du graphe qui sont verts sont ceux qui ont été expliqués à l'ordinateur. Donc les gens sont excités de voir le progrès.
On peut sentir l'excitation en observant le graphe. Alors vous, de votre point de vue, vous êtes comme sur un mirador, vous observez l'avancement. Est-ce que vous contribuez aussi vous-même, puisque vous êtes géomètre?
Alors, oui, bien sûr. Sur ce projet du dernier théorème de Fermat, j'ai pas de contribution directe à l'explication des mathématiques jusqu'à présent. C'est vraiment pas du tout mon domaine des maths, même si l'outil mathématique formalisé permet de donner accès à beaucoup plus de gens, parce que justement, comme l'ordinateur vérifie de façon extrêmement précise que tout colle bien ensemble, il n'y a pas de risque à offrir l'accès à des débutants, en quelque sorte. Et on a aussi des étudiants qui, en mathématiques, qui contribuent quelques morceaux, donc on peut dire voilà un énoncé qu'un spécialiste du domaine a expliqué à l'ordinateur, maintenant il faut expliquer la démonstration. N'importe qui propose une explication de la démonstration à l'ordinateur, si l'ordinateur accepte l'explication, il n'y a aucun doute que c'est correct. Donc pour cette raison, on peut vraiment étendre la collaboration à beaucoup plus de gens grâce à cette technologie.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo. C'est sur l'appli Radio France. Assia Maboubi, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Moi je connaissais le travail de Patrick Massot pour l'exemple dont il a brièvement mentionné l'existence de sa collaboration précédente avec avec deux autres collègues, dont Kevin Buzzard. Donc c'est assez fascinant de voir que ça se passe à l'échelle de ce projet beaucoup plus grand. Mais au-delà de cet bel exemple en fait d'outil d'aide à la planification de collaboration mathématique, je trouve que ce qui est frappant, c'est de voir que cette idée qu'on peut organiser le corpus des mathématiques un petit peu comme on organise le développement des logiciels modernes, qui sont en grande partie développés de façon collaborative, parfois open source, mais par des communautés de gens qui sont répartis dans le monde entier et puis qui contribuent sur des plateformes en fait faites pour ça, se concrétisent en fait. Et ça, c'est des idées qui sont vraiment assez anciennes en fait. Et qui sont rendus possibles par une multiplicité d'ingrédients, donc certaines assez concrètement pratiques, comme ce que présente Patrick Massot, mais aussi, en fait, qui viennent des choix de formalisme fondamentaux sur lesquels les assistants de preuve sont construits. Donc, dans le Kaline, c'est un formalisme logique qui s'appelle le calcul des constructions. Et il y a d'autres assistants de preuve qui sont basés sur ce formalisme, comme par exemple le logiciel ROC, qui est celui que moi je pratique le plus souvent quand je fais des preuves formelles. Et il y a une vingtaine d'années de ça, un chercheur qui s'appelle Georges Gontier avait initié ce projet dont j'ai déjà parlé un tout petit peu de collaboration pour prouver un théorème en théorie des groupes finis. Et il avait cette idée que voilà, en fait, grâce au choix de fondement et grâce à des outils bien compris d'informatique, on allait pouvoir faire des composants mathématiques, il appelait ça, donc des entités mathématiques qui sont développées par des personnes différentes et puis qui se combinent comme ça harmonieusement grâce à des techniques qui viennent aussi de la théorie des langages de programmation. Et c'est assez fascinant de voir à quel point maintenant ça devient vrai pour des mathématiques vraiment très contemporaines.
Assia Maboubi, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous venez d'évoquer ROC, qui est anciennement appelé COC. Quelle est la spécificité de LIN qui se distingue, enfin comment il se distingue ou pas d'ailleurs des autres assistants de preuve?
Je pense que ce qui le distingue, c'est sa communauté d'utilisateurs, principalement en fait. C'est-à-dire que si on regarde du point de vue des fondements logiques, des outils proposés, il y a vraiment très peu de différences en fait. Mais de la même façon que vous avez un paysage extrêmement varié et foisonnant dans les langages de programmation, vous avez aussi plusieurs assistants de preuve qui sont disponibles en fait pour des usages similaires en théorie. Mais après, ce qui va faire que vous allez vous intéresser à à un système plutôt qu'à un autre, c'est probablement en fait la communauté des gens qui l'utilisent déjà, qui discutent des problèmes et des réussites qu'ils rencontrent et qui vont un petit peu impacter en fait, tirer le langage sous-jacent, Lean Rock, vers leurs besoins. Donc il y a des gens qui font aussi des mathématiques formalisées dans d'autres assistants de prof comme Rock. Ces deux-là sont vraiment très proches d'un point de vue formel, mais par contre aujourd'hui il y a vraiment un engouement d'une communauté de mathématiciens professionnels autour de Lean.
On voit, comme vous le dites, hein, ce sont donc bien des logiciels quasiment jumeaux. Ricardo Brasca, une réaction à l'écoute du reportage qu'on vient d'écouter?
Oui, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il dit Patrick, parce que les mathématiciens ont toujours collaboré, c'est très normal de faire des maths en collaboration, mais si vous allez regarder les articles des maths, souvent on a 2, 3, peut-être 4 auteurs. C'est très rare d'avoir un article avec plus que 4 auteurs. Donc les collaborations y existent, mais c'est des petites collaborations. Et aujourd'hui, avec des outils genre Lean Blueprint ou en général les assistants d'épreuve, on rencontre des collaborations avec des dizaines, même des 100, presque des 100, plus que 100 mathématiciens qui travaillent ensemble. Quelque chose qui était totalement impossible ou presque impossible avant. Donc c'est très intéressant le fait que l'utilisation de ces outils nouveaux est en train de changer aussi la manière dont on collabore en faisant des maths. C'est...
Oui, ça change en effet complètement la fabrique des mathématiques.
Oui, bien sûr, faire des maths comme avant, c'est-à-dire au tableau en discutant avec 2 ou 3, ça va rester les cœurs du sujet. Mais c'est aussi possible de faire des gros projets avec des dizaines de personnes qui collaborent sans même trop comprendre, sans qu'un comprend exactement ce qu'il fait l'autre. C'est ça la nouveauté, c'est qu'il y a l'ordinateur qui permet... Qui s'assure qu'on parle bien du même objet. Donc même si moi je suis pas totalement sûr de ce qu'il fait mon collaborateur à Londres, bon il y a l'ordinateur qui vérifie qu'on est en train de parler de la même chose et il y a pas de souci sur ça.
Parce qu'en effet il y a aussi donc cette bibliothèque numérique Matlib, ce projet collaboratif, on a plus de 250 contributeurs. Ricardo Brasca.
Oui, la bibliothèque, c'est une bibliothèque open source, donc tout le monde déjà peut regarder son source code et tout le monde peut contribuer à la bibliothèque. Bien sûr, c'est pas très facile.
Tout le monde.
Non, mais tout le monde peut essayer. C'est pas très facile. Il faut démontrer quelque chose déjà. Donc il faut connaître Lean, il faut connaître un peu les maths, mais en principe, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On a un forum en ligne où tout le monde peut. Là vraiment, tout le monde peut débarquer, poser des questions, même les débutants. On a tous été débutants. Moment et on apprend comment écrire des démonstrations en ligne et à un certain moment on peut demander, ok, j'ai cette nouvelle démonstration, est-ce qu'on peut l'intégrer dans la bibliothèque?
Vous évoquez les débutants, ça me fait penser à ce que disait Asia Maboubi tout à l'heure, le fait que ces logiciels, ces démarches, ces dispositifs, ce n'est pas seulement pour vérifier l'exactitude des preuves, qu'une fois qu'on a formalisé une démonstration, on peut dire qu'on l'a vraiment mieux comprise. Tout ça aussi, c'est quelque chose d'important, j'imagine, pour l'enseignement. Ces assistants de preuves, est-ce qu'ils sont utiles pour ça?
Alors, moi, j'ai fait un cours à l'Université Paris Cité des Lean, donc où j'enseigne des maths formalisées à des étudiants de première année. Donc, le but, c'est double. C'est d'apprendre un petit peu à écrire des preuves en ligne pour leur montrer qu'aujourd'hui, il existe cet outil-là, mais c'est aussi pour vérifier qu'ils ont compris les maths. Donc, l'intérêt est double. Je suis pas encore sûr si ça marche bien ou non. Il faudrait demander ça à mes étudiants. Mais il y en a en partie qui sont intéressés, c'est sûr. Et c'est que peut-être qu'aujourd'hui on doit encore un petit peu mieux développer les outils, parce que écrire une démonstration en ligne, c'est quand même encore assez dur. Donc pour les étudiants, c'est une barrière des plus souvent.
Écrire une démonstration dans Lean, et en tout cas écrire la démonstration du théorème de Fermat-Weyl, ce sera la preuve la plus difficile jamais formalisée. Ricardo Brasca, vous pensez pouvoir y arriver? Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Dans quelques secondes, on retrouve Alexandre Morales. Merci Ricardo Brasca. Merci beaucoup Asia Maboubi. On quitte les maths, on quitte l'informatique. C'est l'heure de la chronique avec Science, avec un nouveau test rapide pour détecter l'hépatite B.
Comment dépister l'hépatite B plus facilement et pour moins cher? Et oui, d'emblée, il faut dire que l'hépatite B, c'est une maladie infectieuse provoquée par le virus de l'hépatite B, le VHB. Il est extrêmement contagieux, 50 à 100 fois plus que le VIH, et se transmet par contact des fluides et des muqueuses. La maladie s'attaque au foie des personnes infectées et peut provoquer des cirrhoses, donc des destructions des tissus, et puis des cancers du foie. Aujourd'hui, plus de 250 millions de personnes sont touchées à travers le monde, principalement dans les pays à faible revenu, comme ceux de l'Afrique subsaharienne, de l'Asie et les pays du Pacifique. Le VHB est donc un des virus les plus prévalents, les plus fréquents au monde. Chaque année, plus d'un million de personnes meurent de maladies liées à l'hépatite B. Alors, il existe bien sûr un vaccin très efficace pour prévenir l'infection par le virus, et en France, il est d'ailleurs obligatoire pour les nourrissons, mais il n'est d'aucune utilité pour les personnes qui sont déjà touchées, et en particulier pour le cas de la grossesse. Le virus a du mal à passer la barrière placentaire, mais c'est au moment de l'accouchement, quand l'enfant entre en contact avec le sang de sa mère, que s'effectue la transmission. Yusuke Shimakawa est épidémiologiste à l'Institut Pasteur dans l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes et il a participé au développement de ce nouveau test de dépistage.
C'est important de vacciner les nouveau-nés de la mère qui est porteuse de virus tout de suite après la naissance, notamment dans les 24 heures de la naissance, qui est recommandée par l'OMS. Mais après, cette recommandation, c'est difficile à implémenter dans les pays sud, notamment là où il y a beaucoup d'accouchements hors de structures sanitaires. Bien évidemment, si les enfants sont nés à domicile, c'est très difficile de donner une dose de vaccination à la naissance dans les 24 heures. L'OMS maintenant recommande depuis 2020 de dépister l'hépatite B pendant la grossesse et puis de faire le deuxième test, les femmes qui sont identifiées comme porteuses d'hépatite B, pour quantifier le niveau de la charge virale, donc qui est le marqueur de infectivité au bébé. Et donc les femmes qui sont hautement virémiques, donc c'est-à-dire les femmes qui ont la charge virale très très élevée, qui ont beaucoup plus de risques de transmission que les femmes qui ont un faible niveau de charge virale, l'OMS recommande de donner le traitement antiviral à ces femmes.
Pour estimer le niveau de présence du virus dans le corps de ces femmes enceintes, c'est-à-dire leur charge virale, il existe deux tests à effectuer avant l'accouchement. Mais le second test, une PCR qui recherche les traces d'ADN du virus, est relativement cher et compliqué à mettre en place. Il faut des techniciens bien formés, des laboratoires d'analyse qualifiés avec des machines et tous les produits nécessaires. Tout cela, bien entendu, rend le déploiement de ce test extrêmement difficile dans les pays pauvres. Il était donc essentiel de développer un outil plus simple pour dépister les mères infectées. Alors, les chercheurs ont débusqué dans la littérature scientifique la meilleure molécule à cibler avec leur test. L'idée était de trouver une molécule du virus facile à repérer et dont le niveau de présence dans l'organisme serait corrélé au niveau de charge virale. Une fois cette molécule trouvée, les chercheurs ont pu développer un test simplifié, une simple languette sur laquelle on dépose une goutte de sang. Alors, est-ce que ce test est efficace? Et oui, c'est une question absolument essentielle, hein. Et pour s'en assurer, les chercheurs ont testé leur dispositif sur près de 1960 femmes du Cameroun, du Cambodge et du Burkina Faso. Le test s'est montré extrêmement efficace, à la fois sur du plasma sanguin congelé et sur des gouttes de sang prélevées par une simple piqûre au bout du doigt des patientes.
La plupart des femmes qui visitent juste le centre de santé pour avoir la consultation prénatale, bah, il n'y a pas de ce test. Donc, ça veut dire que les femmes doivent voyager dans une grande ville où il y a ces machines. Ou parfois, il y a le mécanisme pour envoyer des échantillons collectés au centre de santé et puis envoyer aux structures plus élevées où il y a la machine. Mais en tout cas, tout ça, c'est compliqué. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la grossesse, il y a la limite au niveau de la durée. Donc, si on tarde, ben, la femme, même si elle est éligible pour le traitement préventif, elle n'aura pas suffisamment de temps pour prendre le médicament avant la grossesse. Donc, du coup, elle n'arrive pas à diminuer suffisamment la quantité du virus dans le sang avant l'accouchement. Donc, du coup, diagnostiquer très rapidement et puis idéalement donner le résultat dans le même jour. Je pense que c'est très, très important pour que cette stratégie de prévention de transmission mère-enfant puisse être un succès.
Et c'est justement ce que permet ce nouveau test présenté dans The Lancet. Il est extrêmement rapide, il donne des résultats en presque 40 minutes et il est aussi peu cher et facile à réaliser pour du personnel de santé. Si ce mode de dépistage se déploie, on peut imaginer l'intégrer aux consultations prénatales de routine dans les pays les moins favorisés et espérer mieux protéger les populations contre l'hépatite B.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Lou Angers, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, François Saint-Jour. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.